Bienvenue dans Insider au cinéma, le podcast, une série d'entretiens avec les acteurs et actrices de cette industrie à part, celle des action sports ou des sports de glisse. Une industrie à part donc non seulement de par les univers qu'elle couvre, mais aussi par la richesse de celles et ceux qui ont contribué à son développement. Notre invité aujourd'hui a joué un rôle majeur dans son développement, de par son flair, son audace, sa ténacité et sa volonté de vouloir rendre les sports de glisse accessibles au plus grand nombre. Son nom est associé à l'un des plus grands distributeurs européens de matériel de sport de glisse et c'est entre autres à lui que l'on doit l'arrivée, puis le raz-de-marée du bodyboard dans les années 90. Mais c'est loin d'être le seul fait d'arme de ce dénicheur de tendance et pilier de l'industrie européenne des action sports. Il était donc grand temps de le recevoir à notre micro. Bonjour Michel Hoff.
Bonjour et merci de me recevoir.
Bonjour Michel. Alors un peu comme avec tous nos invités, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous dire comment tu es arrivé à l'univers de la glisse ?
Je suis né à Bayonne. En 1951, d'une famille de très modeste, de forains, avec un père qui m'a appris à travailler, qui n'avait que en tête le travail. Ensuite, de cette famille, on a toujours travaillé dans le commerce. Comment est venue la glisse ? À cette époque-là, mes parents étaient forains, les marchés, les ceci, les fêtes, les articles de fête. Des articles aussi pour des chapeaux pour aller au corrida, enfin, beaucoup de choses. Mon nom est d'origine allemande. Porter un nom comme Hoff en 51, juste après la guerre, c'était pas facile. C'est du passé. J'ai senti, c'est un flair ou c'est une façon de voir les choses, qu'il allait se passer quand même, en étant bâillonné, il allait se passer sur les plages quand même des différentes choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai démarré donc cette affaire et j'ai fait faire dans le Jura des planches en polystyrène, style bodyboard, mais en polystyrène, dans le Jura. Ça commençait à marcher bien. Et après, j'ai trouvé qu'en Californie, la société Cransco, à San Francisco, faisait les mêmes, mais avec un fiberclad, c'est-à-dire avec une fibre bleue. J'achète un conteneur qui se vend très moyennement bien, mais je dis, tiens, je vais aller rencontrer quand même les patrons à San Francisco de Cransco. J'arrive à San Francisco, je devais avoir 27 ans ou 25 ans, méga fête, enfin je rencontre. John Rosecrans, la famille de Rosecrans fait la fortune dans le sucre, c'est l'empire. Et John Bowes, son associé, c'était deux copains de collège, et l'un des fondateurs de Gap. Et me voilà, il m'invite à déjeuner. Ça se passe bien. Moi, dans mon anglais approximatif, je leur dis « mais c'est fabuleux ce que vous faites ». Entre leurs deux bureaux, il y avait une planche de Morey Boogie, de Tom Morey. Et je leur dis « j'ai rendez-vous à San Clemente, ou je ne sais pas, dans le sud, avec Tom ». Ils disent « bon, très bien ».
On est en quelle année, là ?
Là, on est en, je te parle, en 80 ou 82, je pense, dans ce style-là.
D'accord.
Et puis, bon, l'interview se fait très très bien. Donc, il y avait Morey, Frisbee, Hula Hop. Et chaque fois, c'était Michel qui se chargeait de la distribution. Pour la France, l'Espagne, ou quelquefois l'Europe, enfin bon. Quand ils sont morts, ils ont vendu, vous savez à qui ? À Mattel. C'est pour ça que l'Empire de Cransco, avec Morey Boogie, ce genre de choses, est parti chez Mattel. Et autrefois, Mattel, je pense que maintenant aussi, c'est quand même Barbie, c'était un empire, une tour à Los Angeles.
Ouais, c'était un des leaders du jouet. Ouais.
Un grand leader, le leader du jouet. Me voilà allé à Paris et je me rencontre le président de Paris, Gerson. Et il me dit, Michel, tu me fais pas chier. Tu me développes toutes les marques de surf, machin, etc. Mais tu vas en Californie au meeting. Et je vais aller, vas-y, je suis allé dans la tour. C'est pour ça que j'ai fini à avoir aussi du Barbie dans les rayons au forum.
C'est-à-dire qu'en fait, tu allais en Californie au siège mondial de Mattel.
Mondial de Mattel.
Pour le compte de Mattel pour France.
Oui, Mattel France. Mais il fallait que j'assiste aux réunions.
Ouais, ouais.
J'ai vécu cette période de Mattel, des discussions avec les distributeurs mondiaux de Mattel et de Barbie, machin, etc.
Et donc, tu t'es retrouvé à distribuer les Barbie, entre autres, aux côtés des accessoires de Big Jim aussi.
Au forum, oui, mais au forum.
Improbable. Mais il y a quand même un moment où tu t'es recentré, malgré tout, sur les sports de glisse.
J'ai commencé avec le bodyboard, mais après, la seconde marque que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, c'est Sexwax. Zog, Herzog, Sexwax. Et je lui avais demandé une licence de faire le Sexwax Box. C'est une espèce de petit truc comme ça en plastique où on mettait à l'intérieur la wax.
Il y avait le paint d'un côté.
Extérieur.
Et le truc pour waxer sans s'en
et
mettre plein les
mains. Ça a été 25 ans de bons et loyaux services. Et maintenant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a travaillé chez moi, qui a refait une sublime affaire à Hossegor, avant d'arriver à Hossegor, un showroom extraordinaire.
Hervé Lacastenerat.
Hervé.
Hervé, d'ailleurs, qui sera notre prochain invité de Inside Orosima, le podcast. Comme tu le disais, il a une belle entreprise à succès. Quand on fait une rétrospective un peu de ta carrière, quels sont les facteurs clés de succès pour des grandes marques comme Moret Boogie ou Sexwax?
Il y a des principes dans le commerce qui sont importants. Mon père, qui ne savait ni lire ni écrire, mais il savait compter, d'origine allemande, me disait « une chose bien achetée est à moitié vendue ». Or, en ce qui concerne la filière de la glisse, en ce qui concerne le skateboard, en ce qui concerne tous ces sports de glisse, l'important, c'est de bien acheter, de bien promotionner, de s'entourer surtout. Moi, je ne prétends pas, je ne suis jamais monté sur une planche. Jamais. J'ai fait du skateboard, ça un peu, du Moret à la Côte des Basques, mais j'ai détesté, et pourtant j'ai vendu des milliers et des milliers de palmes, des Churchills.
Et justement, raconte-nous comment tu dénichais ces tendances et toutes ces opportunités de business.
J'ai beaucoup voyagé. Le nombre de tours du monde que j'ai fait, la Chine... La première fois que mon père m'y amène, c'était sous Mao Tse-tung.
Pour visiter des usines de...
Pour aller à la foire de Canton. Parce qu'il avait décidé d'acheter des nattes de plage. Et il y avait un importateur exclusif en Belgique, à Bruxelles. Mais mon père voulait acheter directement aux Chinois. Donc me voilà parti avec mon père, via les avions, machin. J'étais pas ni en business, ni en première. Et on y a été. Mais c'était... De Hong Kong, pour arriver à l'hôtel à Canton, c'était pratiquement la journée. Il y avait deux trains, les Européens et les Japonais, et deux hôtels. Il ne fallait surtout pas parler des Américains à cette époque-là. C'était les grands satans. Quand on voit maintenant la Hong Kong, tout ça, ce que ça a changé, c'est extraordinaire. Donc j'ai connu ça sous Mao Tse-tung. J'ai connu tout le développement du salon... qui, je ne sais pas, c'est un des salons les plus grands de Canton, Guangzhou, de Canton.
Et comment ton père, qui justement, lui, était quand même plus à la recherche de produits de plage et grand public, puisque forcément, on savait que chaque été, on était sûr de pouvoir trouver des dizaines, des centaines de milliers de clients pour ça, a vécu ce que toi, tu étais en train de dénicher, un marché vraiment balbutiant des sports de glisse, est-ce qu'il a été réticent ou est-ce qu'il a senti...
Il avait un principe très simple de commerce, il n'avait pas fait HEC. Vend d'abord, après on achète.
Principe de la précommande.
Et donc, c'est là, je reviens du coup à ce que tu disais, que ton père, en fait, disait, vend d'abord et...
Après, mais il faut s'imaginer cette période où les banquiers se demandaient qu'est-ce que c'est ce gars qui importe des frisbees, des surfs, etc. On a eu un peu ce problème-là de crédibilité au niveau des finances. Les gens nous regardaient comme... Parce qu'il y avait une certaine odeur de fumeur de pétard qu'avait un peu la réputation de l'époque des surfeurs, au départ.
Que là, toi, tu mettrais dans le même panier les frisbees ou la hoop et les surfs, même
non,
pour, du
non,
point
non,
de vue des
banquiers. Non, c'est une évolution, si tu veux, de différents produits. Une de mes réussites, de par cette, disons, cette quête de produits nouveaux, j'ai importé des yo-yo, Duncan yo-yo, par il y a quelques années, et j'avais trouvé un ami allemand, Ulrich Habit, qui fabriquait ces yo-yo de haut de gamme. C'était des yo-yo, c'était une chose. Et je prends contact avec lui, je lui achète quelques centaines de boîtes aux grandes dames de mes assistants. Parce qu'il fallait me suivre aussi. Hein. J'ai dit, mais ça va se vendre. Juste, je prends ces accords, et Coca-Cola fait une grande promotion, je ne sais pas si c'était à la télé, à la radio, sur les yo-yo, avec des démonstrations. Et on a vendu des milliers et des milliers et des milliers de yo-yo. Coca-Cola était meilleur marché. Après, il y avait d'autres copies. Mais les Duncan, c'était c'était un principe américain de très beaux yo-yo. En ayant gagné un peu d'argent avec ces yo-yo, j'organisais un premier Moribogi Contest avec Robert Abani sur la Grande Plage.
C'est quoi, début, milieu des années 80
ou début 90, ouais. 80, sur la Grande Plage, c'était... on mettait aussi des rampages sur la Grande Plage, j'imagine maintenant, c'était une autre époque.
Et quand tu décides d'organiser le Moribogi Contest, est-ce que tu as en tête de créer une scène de bodyboard, justement, qui était plus ou moins inexistante
non,
en France?
Pour moi, c'était le développement du bodyboard. Je crois que c'est un tout. De toute façon, il le produit. Le marketing, le développement, le sport, les team riders, la compétition, la pré-compétition... Et la fête. Et ça, j'étais très fort avec la fête. Le nombre de fêtes que j'ai organisées dans ma vie.
Tu parlais des team riders comme vecteur de communication. De ton côté, quels sont les athlètes avec qui tu as collaboré?
Le Mike Stewart. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mike Stewart.
Ah si, quand même. Ouais.
Bah, qui a fait les grandes heures de Moribogi aussi. Et de,
oui,
et de
bien
off,
sûr.
Sans
après,
doute,
qui a créé sa marque.
Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je me souviens que quand on était au collège, tout le monde, tous les bodyboarders parlaient du... C'était quoi le Mac Turbo 3,
voilà,
le Mac 77, Mike Stewart. Enfin, voilà, c'était
voilà.
Clairement des noms qui... des noms prestigieux.
Sa mère fabriquait des leashes, les gyro leashes. Après, je dis, mais écoute, Mike, tu devrais le faire à Taïwan ou tel endroit. Mais Mike a toujours été un visionnaire, a toujours été un grand, d'abord, un grand champion. Une personne fabuleuse. Peut-être au niveau business, il ne faisait pas confiance à des tierces personnes. C'est-à-dire, par exemple, confier la fabrication de son leash, comme si c'était un secret, comme si c'était la NASA. Mais il fallait que ça soit sa mère qui fasse les leashes, par exemple. Et la pauvre, elle était débordée, dans un garage.
Ça va jusqu'à un certain
moment. Voilà, jusqu'à un certain moment, je dis, écoute, j'ai quand même des sources, des gens qui font des contrats, il faut faire confiance à des tierces personnes.
Et justement, tu nous disais que tu allais beaucoup, donc tu voyageais beaucoup, tu allais beaucoup en Californie pour dénicher des produits,
oui.
Beaucoup en Chine pour dénicher des fournisseurs.
Oui.
Et à partir de quel moment tu te disais, ok, je vais miser sur les yo-yo, je pense que ça va marcher, ok, je vais miser sur des frisbees, je pense que ça va marcher, ou des bodyboards, je pense que
oui.
Ça va... C'était quoi le facteur déclencheur?
Je crois que d'abord, c'est le nez. Le nez et les yeux. Je vais vous raconter quelque chose. Les trottinettes, les patinettes. Mais j'étais le premier à me porter.
C'était DJ Bug, non? C'est ça?
Non, le JD Bug, voilà.
Ouais, JD Bug.
70 000, je rentre, je vais dans un salon à Taïwan, je ne sais pas où, il y a tout Taïwan ou en Chine, et je prends un bon de commande de 70 000 JD Bug. Quand je rentre chez moi, mon directeur général, il me dit, mais tu es banque? Je dis non. On fait venir les échantillons, on vend les 70 000 dans 6 mois. Mais j'étais, disons, l'un des premiers là-dessus. Il y a d'autres sociétés qui l'ont fait. Et après, il y avait l'électrique. Et j'étais aussi un des premiers de l'électrique à importer ça. Je me souviens, je partais du salon à la porte de Versailles pour j'habite à terre à la Bastille, mais je partais en truc électrique, mais j'étais plus jeune.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que tu racontes que tu as eu le flair sur des choses et qu'a priori, tu n'y allais quand même pas avec le dos de la cuillère quand tu commandais direct à partir d'une intuition 70 000 trottinettes. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments aussi où tu t'es...
Je me suis planté sur des produits.
À se retrouver avec des quantités astronomiques de produits sur les bras.
De toute façon, on ne peut pas... Écoute, on ne peut pas être bon partout. Bon, il y a eu des ratés.
Quoi comme produit, par exemple?
Je crois que j'ai oublié que c'était des ratés. Il y a des fois aussi, j'étais peut-être trop en avance. Quand j'ai importé les premiers Morets, vrais Morets, le Max 77, je me souviens la réaction de certains surf shops qui rigolaient. À cette époque-là, à 500 francs, c'est-à-dire quasiment 100 euros, une planche en mousse, ils rigolaient. Mais il a fallu amener, disons, du marketing. Le nombre de stickers que mes équipes ont distribués dans les salons, ça ne se chiffre pas.
Et des stickers chez Off, il y en a eu un bon paquet de distribués. D'ailleurs, Moray Boogie est devenu une marque incontournable du bodyboard et du paysage surf. Dans ces années-là, années 90, 2000, la surf industrie n'a cessé de se développer. Quel a été l'impact de cette croissance fulgurante?
C'est que ça a permis, tant au niveau touristique, mais au niveau des locations, au niveau des bed and breakfast, au niveau de la mouvance du tourisme en général, de réallonger un peu les saisons,
bien sûr,
qui avant étaient courtes, qui étaient non seulement du 15, tu vois, du 14 juillet au 15 août. Mais là, avec la dynamique du surf qui a été créée, dont vous êtes participant, dont vous savez ce que c'est, la saison, les saisons, et même maintenant, même l'hiver, les gens viennent, ou en demi-saison, ou... c'est quand même fabuleux.
Ouais, et finalement, on peut presque parler de cercle vertueux là-dedans, parce que si aujourd'hui, on permet à des gens de pouvoir venir sur ce qu'on appelle les ailes de saison, donc l'avant et après, c'est notamment grâce à des gens comme toi qui avaient permis d'avoir accès à du matériel qui permet de le faire, donc qui permet de surfer dans des conditions un peu plus compliquées, notamment de l'eau froide ou quoi. Et je pense qu'il y a aussi tous les efforts marketing qui ont été développés depuis toutes ces années et qui ont permis de créer des événements un peu dingues, un peu excentriques parfois, comme le Gliss Expo ou tes compétitions à toi qui ont permis vraiment d'installer le surf de manière pérenne et durable sur tous ces milieux-là, toutes ces destinations, mais en insufflant aussi tout ce petit grain de folie, tout ce côté excentrique que pouvaient avoir les marques et les gens qui étaient à leur tête à ce moment-là.
On hérite de gens qui ont la folie. De toute façon, ça a toujours été la glisse. C'était issu d'une certaine brin de folie qui a émané et qui est parti dans différentes trucs, dans différentes choses.
C'est clair qu'il y avait une sacrée énergie créative. Et à ce moment-là, il y a eu un besoin de fédérer un petit peu l'industrie. Et toi, tu as été un des fondateurs de l'Eurocima. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les prémices de l'association et les débuts?
Les premières réunions ont eu lieu au Forum dans ma société. Pourquoi ? Parce que c'était bien de ceux qui arrivaient de Saint-Jean-de-Luz et ceux de Cabreton-Segor, mais aussi ceux de Saint-Sébastien. Et ça permettait, si vous voulez, de se retrouver à Bayonne, qui était un peu en centre, qui était au Forum.
Portait bien son nom.
Il y avait des intentions business décrites à la création de l'Eurocima ou c'était juste au départ
non, une volonté d'avoir une association qui défende un peu notre filière. Que notre filière soit représentative, non seulement au niveau des salons, au niveau des pouvoirs économiques et politiques, une aide aussi à la création de nouvelles idées, de nouvelles sociétés, de jeunes qui ont besoin d'être un peu un temps soit peu pris en main. C'était un peu ça l'idée de on se regardait pas en concurrent. Je crois que le fait d'être concurrent, c'était vrai, mais il faut quand même aussi quelquefois se dire on s'assied, on se parle, on parle de futur, on accouche de certaines choses qui sont importantes. Il y a des... Mettons, Franck pouvait vous raconter certaines choses, certaines engueulades, certains trucs qui n'étaient pas du tout clairs. Et après, on se disait bye-bye, ou on allait dîner ensemble, ou déjeuner ensemble. Voilà, c'est une simple façon de voir les choses. Je crois que de toute façon, il n'y a pas, dans le commerce, des concurrents. Il y a des gens qui vont, dans un certain sens, avec des visions, des façons de voir ce qu'est fait demain, des familles, des gens qui sont là pour prendre du bon temps, surtout pour faire du sport. Vous parlez de beaucoup de gens, beaucoup de sont toujours présents, beaucoup, et je suis content, réussissent, beaucoup de jeunes, beaucoup de marques, beaucoup de créations de marques. La vie est faite de toute façon de créativité. Elle est basée sur la tête, le flair, les voyages, les contacts.
Alors, parmi les autres personnes, les autres Français qui ont aussi quand même distribué d'autres des marques à succès dans le surf, il y a Pierre-Bernard Gascogne et son entreprise Surf System. Est-ce qu'il était question de concurrence ou là aussi, en fait, de bonne entente entre personnes qui font le même métier?
Dans les fondateurs, il y a M. Gascogne, Pierre Bernard Gascogne, que je respecte beaucoup.
Qu'on a reçu à ce micro aussi précédemment.
Je connais depuis fort longtemps, qui a été le digne patron de Surfsession. Je ne sais pas si ça a été vendu ou si ça a été repris. C'est quelqu'un qui a ses façons de voir, qui avait quand même, Surfsession, ça l'a quand même aidé pour promotionner ses produits. Je sais même pas, je pense qu'il est aussi fondateur de l'Eurocima. Après, le temps passe. Vu avec le recul, bon, je le respecte. Et puis voilà, quoi. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui a compté tout le temps dans le business.
Et quelqu'un qui, comme je le disais avant, est passé au micro d'Inside Eurocima et dont l'épisode est toujours disponible sur toutes les plateformes comme ceux des autres invités. Il y a un autre point commun entre vous deux, c'est que vous avez toujours fait ce métier par passion. C'était pas seulement du business.
Je crois que de toute façon, il y a toujours le cœur. Le cœur est important. Que de toute façon, il n'y a rien sans rien si tu ne sais pas promotionner non seulement avec le cœur, en donnant aux gamins des stickers et en donner des milliers et des milliers, le business est là. Si tu n'as pas le cœur pour faire ça, la vie, je crois que la vie te le rend avec le recul du temps.
Tu as distribué nombreuses marques à succès. On citait Moré Boogie, Sex Wax, marque iconique de l'antidérapant pour Bord. Et également, autre marque iconique, Reef Brazil, donc la marque de sandales. Comment ça s'est fait, Reef? Comment t'as repéré la marque? T'as eu la distribution
Je me rappelle, je recevais quand même, j'achetais Surfing Magazine ou Surfer Magazine à cette époque-là, et je trouvais intéressant cette annonce qu'ils avaient fait avec une tongue et des raies et une île. Je dis, ça reste très bien, je prends contact avec eux, je me souviens toujours, et puis, Rive Brésil. Bon. Et puis je dis, je vais aller au Brésil acheter les mêmes. Je prends l'avion, je me souviens de tout ça, un vol de la Paname, Paris, Miami, Rio. Et je savais ils faisaient un salon. Alors j'appelle, quand j'atterris à Miami, j'appelle Fernando, je dis, je m'en vais voir tes fabricants. Ils étaient fous furieux. J'arrive à Rio, bon déjà Rio j'aimais beaucoup, et je m'en vais du côté de São Paulo, fin fond, dans une usine. Enfin, j'achète un conteneur de tongs, pas exactement les mêmes, pas bien sûr avec la marque, et je prends la commande, et je rentre, et je dis, mais bon, je reçois mes premières tongs, ça se vend très très bien, et après je prends contact avec eux. Je leur dis, moi, vous les Argentins, parce qu'en plus je suis espagnol, si tu veux. Je parle espagnol comme c'est ma seconde langue, mais c'est ma marque, comme une langue maternelle. Eux, les Argentins, ils ont un espagnol qui est un peu différent. Donc, on a pris un accord. Et c'est eux on a bâti quelque chose d'extraordinaire. Les deux frères, qui se complètent bien. Autant l'un, c'est le show.
Fernando.
C'est le show, c'est le cœur, c'est la vue, les filles, les culs.
Ça fait des campagnes de pub pendant un petit
moment. Ça fait des campagnes de pub. Alors, ils avaient les filles qui était au ras du sol. Et nous, pour l'Eclipse Expo, je disais, mais punaise, pour ne pas dire autre chose, on les met sur une estrade. Ce qu'il y avait au niveau, il y avait le panorama, vous avez compris,
oui,
qui était meilleur que d'être en bas. Après, par exemple, les premières fêtes, j'ai fait faire à Fernando ses premières fêtes de Pamplune. Avec Santiago, quelquefois, on partait à Hong Kong, à cette époque-là, Hong Kong, aux Philippines, pour sourcer des trucs. Et puis après, il y avait les meetings en Californie. Ça, c'est l'époque de la Joya. Enfin, c'est passé par différents stades. Alors, quelquefois, dans l'après-midi, tous les Japonais dormaient dans les meetings. Mais qui mettait un peu d'ambiance dans les meetings, c'était moi. Hein, parce que quand ce n'était pas bien, ou si le restaurant n'était pas bien, je leur disais. Hein. J'ai fait pleurer quelques secrétaires. Par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été pendant très longtemps la secrétaire de direction de Fernando, c'est Paola Di Incisa, dont je crois que le mari est le président de Nixon, où je crois qu'ils ont vendu les montres Nixon.
Le fait d'avoir rentré Reef en distribution, est-ce que ça a changé un peu la physionomie de la société Off? Est-ce que ça a influencé des choix stratégiques?
Disons que parallèlement, j'avais d'autres fournisseurs quand même. J'avais sorti des sandales Rainbow noires que j'achetais en Chine.
Ouais, les arcs-en-ciel.
Oui, achetés en Chine, qui étaient le premier bas de gamme. Un peu parce que les Riffs étaient quand même beaucoup plus chers à l'époque. Donc c'est toujours pareil. Je crois qu'il y a quelque chose de très simple. On le regarde, on le voit. Il faut dire comment je vais pouvoir justifier la vente de ce produit par un marketing ou quelque chose qui est du peps ou qui est quelque chose qui soit différent. Or, bien sûr, Riff ensuite a fait évoluer les sandales sur des choses qui étaient beaucoup plus sophistiquées, toujours de très bonne qualité. Toujours de très bonne qualité. Ou même, bien, ils ont fait des sandales, mais bon, c'est vieux ça, avec où on pouvait ouvrir les bouteilles, les canettes de bière, enfin les petites bouteilles de bière. Mais ça, c'est en dernier temps. Il y a toujours, je crois, de choses simples, quelque chose de nouveau à faire.
Et ça, en tout cas, ça a apporté la société Off dans une nouvelle dimension, de par les volumes que ça a pu générer et le succès de la marque.
Oui. Le problème que j'ai eu à gérer, nous avons, avec l'équipe, je parlerai par exemple de Jean-Jacques Bonello, qui a été pendant près de 20 ans ou 25 ans, qui était mon brada, qui est un ami, je respecte beaucoup. Jean-Jacques a été l'un des gestionnaires. Je crois que, de toute façon, dans une société, si à la tête, il n'y a pas deux personnes, mais aussi beaucoup de gens, de collaborateurs qui sont toujours là, que je respecte et j'aime beaucoup, je crois que s'il n'y a pas ça, l'affaire n'existe pas. Le problème, donc, on revient, c'est qu'il fallait traiter avec des marketing différents, avec comme, entre guillemets, avec des rayons. Et quelquefois, à l'intérieur de ces rayons de la société, ce n'étaient pas les mêmes commerciaux. Commerciaux ne pouvaient pas tout faire.
Ils ne pouvaient pas tout vendre.
Et bien
forcément.
Sûr, tu vois ce que je veux te dire.
Donc, du coup,
tu
étais obligé de segmenter.
Quelquefois, de segmenter. Ou d'ouvrir une autre société parallèle, ce qu'on a fait quelquefois avec Jean-Jacques, pour avoir des stands différents.
Comme tu le disais, donc différentes équipes, différentes sociétés, différentes marques à gérer. Donc, il y a quand même l'importance de l'humain et de redonner à ses collaborateurs.
Un grand moment que j'ai passé avec ma société, un jour, je décide d'aller en bus. Je crois qu'il y avait un concert à Pampelune, d'Elton John. Et je décide que toute la société bouffe un bus et youpi, on part tous à Pampelune. On voit le concert d'Elton John, on fait un petit tour et tout le monde était raide bourré. Et on rentre. Tout le monde en bus et à Bayonne, au forum. Ça, c'était un samedi soir où... Et le lundi, il fallait travailler.
Work hard, play hard.
Work.
Autre fait d'armes de la société Off, c'était d'être les premiers un peu à s'être lancés sur des nouvelles technologies de construction de planches, notamment avec la marque SurfTech. Donc, premier importateur de la marque SurfTech. Ça s'est passé comment cette découverte et la première commercialisation.
De toute façon, il y a déjà le salon de l'ASR qui était en Californie, qui m'a permis de rencontrer, par exemple, Randall French, qui débutait avec cette nouvelle technologie qui était produite par une méga entreprise qui existe toujours,
Cobra,
en Thaïlande. Mais Randall a eu cette... d'abord, il a créé ces différentes couches et a fait donc fabriquer ça chez Cobra. Mais après aussi, il a fallu que d'autres shapers lui confient
des modèles, des designs.
Ce qui n'était pas dit, parce que les shapers ne voyaient peut-être pas d'un très bon œil ces nouvelles technologies. Ça n'a pas été du jour non plus au lendemain. Après, bien sûr, dès qu'il y a eu d'autres shapers qui ont dit « Bon, on va faire sur la technologie SurfTech », ils ont fait confiance aussi à Randall French. Tout ça, c'est à l'intérieur de cette industrie, c'est ce respect, cette façon de parler des différentes choses qui font les différentes... matériaux, les différentes flottaisons, les différents shapes, qui ont fait que SurfTech s'est hissé Mais après, il y a eu aussi d'autres technologies, il y a eu d'autres... tout ce qui est... qui ne pollue pas.
C'est certain.
Mais là où il y a... La pollution de l'eau, de la mer, mais aussi des endroits de fabrication. Pensez que, par exemple, certaines fabrications de planches qui sont faites en Chine ne polluent pas, qui étaient fabriquées à Shenzhen, qui étaient fabriquées par là. On est dans un cycle on en reparle de ces considérations de pollution et tout ça.
C'est clair que là, le challenge pour les nouvelles technologies de bord, c'est d'avoir une technologie un peu plus propre. Par contre, il y a un point commun avec ce que tu racontes sur SurfTech, c'est que chaque nouvelle technologie a besoin d'un shaper de renom pour valider les modèles.
Et oui, bien sûr.
Là, récemment, il y a Darkart, qui sont des boards tout en carbone,
oui.
qui arrivent sur le marché, et ils vont vers certains shapers prestigieux pour valider leur technologie.
Et c'est vrai qu'à l'époque, SurfTech avait assez rapidement réussi à signer Channel Island et Almeric, qui était déjà sans doute la marque la plus prestigieuse,
Almeric.
Donc ça donnait quand même du crédit. Voilà.
Que M. Almeric daigne ou autorise Randall French à faire deux ou trois planches, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Et alors, pour la distribution européenne, mettre des planches à Almeric, est-ce que ça passait par... est-ce que c'était convenu que ça puisse passer par toi, ou est-ce que le distributeur européen d'Almeric, qui était le groupe Burton à l'époque...
Rien n'était simple à cette époque-là.
Parce que là, on est sur deux marques qui ont deux distributeurs différents.
Mais rien n'était simple, parce qu'il fallait aussi... ménager toutes les susceptibilités.
Comme disait Rémi, ça a quand même été une sacrée révolution, et, ouais. ça a inondé le marché de manière assez rapide, finalement.
Puis c'était pas gagné au départ. Pour les détaillants, ils étaient toujours habitués à avoir soit une planche en polyuréthane classique, soit des planches vraiment de débutants en plastique. Oui. Mais une technologie intermédiaire, c'est...
Il y a eu aussi les Moray Doyle, enfin les planches en mousse. Tout ça, c'est des évolutions basées sur quelqu'un qui avait son truc de shape et qui faisait évoluer ses produits.
Et autre évolution de Off, donc au départ, tu distribues, enfin, t'as longtemps distribué des marques existantes, on l'a dit, Moray Boogie, Sex Wax, Churchill, donc des grosses marques relativement puissantes dans notre industrie. Et puis, petit à petit, t'as développé aussi tes propres marques.
Mais la valeur d'une société, quand on a une société, et mon souci, c'était aussi notre souci, parce que c'était quand même une équipe, nous étions une équipe, c'est aussi avoir des marques qui sont propres à la société, qui appartiennent à la société, notamment avec Sniper, au niveau bodyboard, ou avec Cartel, au niveau skateboard.
Et aussi en accessoire, la marque Madness.
Oui.
Et là, avec cette marque, tu as abordé un positionnement plus agressif en termes de prix que ce qui se faisait, déjà sur le marché. Tu étais un peu un des premiers à faire ça, si je me souviens bien.
Je crois aussi le temps s'écoule. C'était aussi dans une volonté, une velléité d'avoir que la société ait une certaine indépendance. Peut-être je me répète, hein, j'en
vis-à-vis
suis désolé.
Des marques
vis-à-vis des marques ou des contrats ou éventuellement des velléités, c'est arrivé, de dire à telle société, dire ou qui a été, par exemple. Qui telle société a pu être reprise par un gros groupe, d'où le distributeur, il n'en avait plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, au départ, quand j'ai fait Madness ou Sniper ou ce genre de choses, c'était pas joué. C'était que ça maintenant se soit reconnu avec le temps, que ce soit dans les shops.
Et justement, quand les marques que tu distribuais... qui était un peu, on va dire, le bread and butter de Off à ce moment-là, quand elles t'ont vu développer tes marques en interne, ça n'a pas posé de problème vis-à-vis d'eux? Ils ne se sont pas dit « Ah, il est en train de nous concurrencer » ou bien au contraire, ça a renforcé ta position de distributeur puissant?
Non. Je pense que c'est le traitement d'être un distributeur, à la fois distributeur, c'est une machine, une stratégie, une logistique. Tu vois ce que je veux dire? De distribution, promotion, rider, vente, et il faut quand même aussi être payé
par ses clients.
D'où ça veut dire aussi prise de risque. Prise de risque. Et ça, vous savez, les épaules. Parce qu'il y a quelques fois, eh bien, il y a eu des clients qui laissaient des ardoises et qu'on ne revoyait plus. Perte et profit.
Justement, dans fin des années 2000, on voit un petit ralentissement des
oui.
ventes.
Mais oui, il y a eu aussi un peu un certain down de cette filière qui a eu... tu disais quand, à peu près, dans les années...
À partir de 2008, ça a commencé à ralentir.
Voilà, à ramer.
Ouais. Mm-hmm.
Pourquoi ? Parce que, bon, aussi l'évolution, toujours pareil, des modes, mais c'est toujours, vous savez, les modes, on est up, on est down, et il faut rester. Il faut assurer les fins de mois. Il faut assurer aussi le futur des familles qui travaillent avec vous, des enfants.
Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, quand en 2008, il y a eu... bon, voilà, on va dire que la mode, c'est assez des sports de glisse. Est-ce qu'il y a eu... tu as dû faire recentrer un peu l'activité sur certaines marques, internes ou externes?
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un certain ralentissement.
Après, la croissance ne pouvait pas être non plus...
ça ne pouvait pas continuer jusqu'au ciel.
Quelle est, avec le recul, quelle est la marque qui a été la plus... Enfin, ta plus grosse marque, ton plus gros succès parmi tout ce catalogue de noms qu'on évoque depuis tout à l'heure?
Pour moi, c'est Moray Boogie. Pour moi, c'est Moray. Pour moi, c'est le bodyboard.
D'accord.
Ça a été une histoire, et c'est toujours une histoire fabuleuse. C'est l'accession à la vague, au plus grand nombre. Il y aura toujours des marques, etc. Pour moi, je pense que le bodyboard et le Moray... Pour moi, ça a été ce que j'ai, simple, ce que j'ai mis en place. Ça n'a pas été simple, mais bon, ça continue. Au moins, les familles, les jeunes, même ceux qui n'ont pas... Il faut parler aussi en budget. Il y a des gens maintenant qui ont des fins de mois difficiles, enfin, c'est pas facile. Il y a des rentals, il y a des différentes marques... Mais le Moray, pour moi, c'est quelque chose qui a été un vecteur de glisse et d'accession à la glisse.
Et est-ce qu'il y a, avec le recul toujours, des tendances que tu n'as pas dénichées ou des marques qui te sont passées sous le nez parce que sur le moment, tu n'y avais pas cru ?
Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Comme disait la chanson, non, rien de rien, je ne regrette rien.
Qu'est-ce qui t'a motivé à vendre la société ? T'en avais marre ? Tu voulais prendre du recul ou t'avais plus envie que ce soit pris en main par d'autres gens ?
Je crois qu'il était important de passer le relais à une société ou à quelqu'un qui soit dynamique et qui assure la pérennité de cette affaire. Donc j'ai vendu le fonds et le stock, enfin toute l'affaire, pas les murs. Et donc après, ça s'est fait en une autre période, 5 ans après, j'ai vendu les murs de la société du forum. Je suis passé récemment, j'ai noté de façon très... C'est-à-dire qu'il y a un tel business qui se génère, c'est que même les showrooms sont remplis de marchandises. Les showrooms. Moi, ça m'a fait... J'ai beaucoup apprécié. Je repars sur aussi quelque chose qui a été repris et qui a été refait par l'équipe. Disons l'équipe, à la fois il y a des vieux, de la vieille qui sont toujours chez Off, mais par exemple ce catalogue, si un jour vous avez l'occasion de vous y aller, vous essayez de vous en procurer un, qui est quand même quelque chose de très bien.
Il n'y a jamais eu la volonté pour Off d'ouvrir ses propres magasins à ton époque, une chaîne pour pouvoir distribuer, ne pas être que distributeur, mais vendre en direct.
Marc Farah, à qui je pense certains magasins clés, à la côte, notamment anglaise, il me semble.
Mais justement, à ton époque, il était, c'est pas non, quelque moi chose que j'engageais, non.
Je sortais d'une expérience de détail. Pour moi, j'étais distributeur. Je n'ai pas, en plus... Mais comme il y a des évolutions où il faut maîtriser aussi, je veux dire, le retail, je reconnais qu'il a quand même eu la façon de le faire.
Mais pour toi, à ton époque, tu considérais que c'était un autre métier encore ?
Pour moi, c'était un autre métier. Moi, j'étais à ma place, c'est-à-dire distributeur.
On disait tout à l'heure en introduction, tu as participé à rendre accessibles les sports de glisse au plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est le cas. Clairement, le surf, le bodyboard se sont très largement démocratisés, n'ont jamais été aussi populaires. On parle de 600 000 surfeurs, hein, c'est les chiffres de la Fédé en France.
Hallucinant,
et
ouais.
Commence à se poser même des problèmes de surpopulation sur les spots.
Mais bien sûr.
Quel est ton regard là-dessus aujourd'hui?
Mais honnêtement ravi que je vais pas non plus te dire que je suis pas préoccupé, mais que ça prend ces proportions, c'est bien. Mais aussi, on repart un peu au début tout à l'heure de la conversation où on se disait qu'il y a pas, il y a la filière glisse, mais il y a aussi tous les hôtels, les restaurants, les bars, les gens qui louent qui assurent des MFS ou des Airbnb ou voilà. Ça, c'est important. Parce que si on regardait un peu, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'il y aurait? Les fêtes, la pala, des parties de pelote.
Jambon.
Le jambon et le chocolat de Bayonne.
Et au début de la conversation, on évoquait ta collection de planches de surf. Et c'est quelque chose que tu as développé au fil de ta carrière ou tu t'y es intéressé sur le tard?
Bon, mais de par mes voyages, j'ai constitué une collection de tableaux que j'ai vendus, de Ken Oster, des trucs comme ça. Le skateboard. Il y a des skateboards qui se sont vendus aux enchères à Biarritz, chez Carriol. Ça a été une vente. J'ai même pas assisté parce que j'avais pas envie d'y assister. Ça s'est bien vendu, mais ça a été vendu dans différents pays, hein, qui s'est parti et qui était dédicacé. Hein. Je regrette pas.
Et du coup, de cette collection, t'aurais pour but d'en faire quelque chose, des expos, la montrer, la prêter?
Je vais encore vendre des trucs, je vais faire des ventes parce que j'ai encore pas mal de choses à vendre. Mais
et donc, voilà. Ta collection aujourd'hui, ou ce qu'il en reste, n'est accessible à personne à part quelques initiés, quelques amis?
Non, je ne quantifie pas. Je ne quantifie pas la valeur des œuvres. Il y a des choses qui sont personnelles, des choses qui sont, par exemple, des photos que je retrouve petit à petit. Des gens qui sont morts, des gens qui sont là. On quantifie une collection sur des œuvres, des Picasso, des machins, des ceci, cela. J'ai peut-être encore... Mais je crois que tout ce qui est, skateboard et tout ça... par exemple, dans cette vente, j'avais mis des skateboards chez Hermès. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de skateboard de chez Hermès? Ça vaut des sous. Que j'avais à la Chambre d'amour à Anglette.
Donc, tu as vendu une partie de ta collection, tu as aussi vendu off il y a quelques années. J'imagine que ça doit être une satisfaction pour toi de voir que la boîte perdure et continue à être un acteur incontournable aujourd'hui.
Ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est d'abord que off, grâce au successeur et grâce à M. Farah, soit toujours là. Il y a tellement de choses, mais qui est toujours là et qui fait de bonnes affaires. Bon, et en plus, ça porte mon nom. Et ça me fait grand plaisir.
Est-ce que Moray Boogie aurait pu disparaître, par exemple, du marché en Europe?
Oui, mais alors maintenant, des jeunes ont repris, ils ont fait Moray Boogie ou Moray Europe. Mais c'est une affaire séparée.
Ouais.
Mais c'est bien parce que, disons que le partage de toute cette activité s'est réparti sur aussi des sociétés d'une taille plus réduite. Et c'est ce qui est bien, qui non seulement permettent à ce que différentes familles, différentes personnes puissent travailler au sein de petites sociétés. Et quand j'appelle petites sociétés, pour moi, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Bien au contraire. Je crois qu'il faut inculquer à la jeunesse qu'il faut savoir partir de rien. Et petit à petit, par rapport à la force du travail, aller vers le haut. Je n'ai pas d'enfant, je n'aurai jamais d'enfant. J'ai ma mère, j'ai des neveux, enfin j'ai une famille. Je suis parrain de pas mal de personnes, notamment du fils de Bernard Mariette, Tage Mariette, qui doit avoir 20 ans maintenant. Mais j'estime que j'ai une famille qui se monte de la glisse.
Michel, est-ce que tu as un mot pour résumer ta carrière, si tu devrais la résumer en un mot aujourd'hui?
En espagnol, on dit « Y que me quiten lo bailao ». On ne m'enlèvera pas ce que j'ai pu danser. En un mot aussi, pour moi, c'est ma vie. Je souhaite beaucoup et bonne chance. Et il faut que les jeunes travaillent, créent, se bougent. Tout est devant, l'avenir est devant. Il faut continuer, avancer, intensément, The end. Merci.
Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous raconter ta longue carrière au micro. Un grand merci aussi au groupe Board Riders quand même pour nous avoir accueillis dans leur studio d'enregistrement, pour réaliser l'émission. Merci à Rémi Duprat et Fred de Bayoncourt à la réalisation. Retrouvez tous les autres épisodes d'Insider Ossima sur les principales plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Deezer et sur insiderossima.com. On vous dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée autour de la table.
À bientôt.
You.